VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakiza en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. C'est un plaisir de vous présenter cette deuxième édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, mardi 14 mars 2017. Voici d'abord les principaux titres. Retour au calme dans le Kasaï central en RDC après une matinée agitée.
Des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers de Kananga.
Pascal Kapalé à Kinshasa dans quelques instants. Les pirates somaliens se font encore entendre.
Le cargo a fait savoir qu'il était suivi par deux embarcations hier après-midi avant de disparaître.
C'est le récit de Jacques Aristide. La tempête Stella paralyse les activités dans le nord-est des États-Unis.
50 millions de personnes sont concernées par l'avis de tempête.
Oui, Michel Joseph nous donnera les détails. Et à suivre après le journal, l'économie et les sports, Issa Yatou qui veut briguer un énième mandat à la tête de la CAF. Nous ouvrons cette édition par la Corne de l'Afrique. En Éthiopie, au moins 72 personnes ont péri dans un éboulement sur la plus grande décharge d'ordures d'Éthiopie. Un précédent bilan de cette catastrophe survenue samedi soir au sud-ouest de la capitale faisait état hier de 65 morts, en majorité des femmes et des enfants. Le gouvernement a décrété un deuil de 3 jours, un deuil national de 3 jours. RDC, calme précaire à Kananga, dans la province du Kasaï central, après une matinée agitée. Des affrontements ont opposé les forces de sécurité aux éléments de la milice du chef coutumier Kamuina Nsapu. Cette situation a paralysé la ville toute la journée. Un premier bilan fait état de 3 morts. Le point avec Pascal Kapalé de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À l'origine, selon des témoins, la police avait abattu 3 jeunes gens, dont une fille identifiée aux miliciens Kamuina Nsapu, sur le boulevard Lumumba, à proximité d'une école. Ces jeunes gens n'avaient sur eux aucune arme, mais semblait-il présenter des signes d'appartenance à la milice Kamuina Nsapu. Des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers de Kananga. Les activités étaient paralysées pendant toute la matinée. Les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, qui séjourne depuis lundi soir à Kananga, a minimisé les faits. Pour lui, les policiers avaient vu un jeune homme avec une bande rouge et par mégarde, ils ont tiré un seul coup de sommation et la débandade s'est installée au sein de la population. Emmanuel Ramazani Shadari a reçu des assurances du commissaire provincial de la police du Kasaï central, le général Vumilia, sur les calmes qui règnent dans cette ville. Le 12 mars, 2 experts des Nations Unies, un Américain et un Suédois, accompagnés de 4 Congolais, ont été enlevés sur l'axe Bukonde-Chimbulu, toujours au Kasaï central. Selon les porte-parole du gouvernement congolais, les autorités n'étaient pas au courant des activités des officiers de l'ONU. Kinshasa, Pascal Kapalaï de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Cette escalade des violences dans le centre de la RDC préoccupe l'Église catholique et la commission chargée d'organiser les élections. Dans un rapport, la commission indique que cette insécurité risque de retarder le processus électoral. En Centrafrique, 10 de personnes sont retrouvées mortes assassinées dans la région de Bambari, centre-est du pays. Une faction de l'ex-coalition Seleka, Eldaline Daras, leader de l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, est pointée du doigt. Un responsable des autorités locales, qui a requis l'anonymat, affirmait que ces tueries ont été commises entre le milieu de la semaine dernière et le week-end dernier. Plusieurs autres personnes blessées ont fui vers Bambari pour se faire soigner. D'autres encore se sont réfugiés en brousse. Boko Haram a exécuté 3 personnes dans le nord-est du Nigeria accusées d'espionnage pour le compte du gouvernement nigérien. Les djihadistes ont diffusé sur Internet une vidéo de 7 minutes que l'AFP a visionnée. Toujours au Nigeria, le leader du groupe islamiste Ansarou, Khalid al-Barnawi, a comparu aujourd'hui devant un tribunal de la capitale Abuja. Il a été formellement inculpé pour l'enlèvement et l'assassinat de 10 étrangers. Ansarou est une faction dissidente de Boko Haram. Son chef est considéré comme un terroriste et figure sur la liste noire des États-Unis jusqu'à son arrestation au Nigeria en avril 2016. Le nouveau président gambien Adama Barrow effectue sa première visite en Europe. Il est accompagné de membres de son gouvernement et d'hommes d'affaires. Monsieur Barrow doit rencontrer le président français François Hollande avant de se rendre au siège de l'Union européenne à Bruxelles. En Côte d'Ivoire, le procureur général Ali Yeo a accusé aujourd'hui les avocats de Simone Gbagbo de saboter le procès de l'ex-première dame. Le procès a repris aujourd'hui par une requête de la défense qui réclame une liste de documents. La semaine dernière, la défense avait dénoncé des risques de blocage du procès, estimant ne pas bénéficier du même traitement que l'accusation. Mais Madame Gbagbo est jugé pour des crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Somalie, détournement d'un pétrolier battant pavillon des Comores dans le secteur du golfe d'Aden. Confirmation aujourd'hui des autorités somaliennes, une première depuis 2012. N'est-ce pas, Jacques Aristide?
L'ARIS 13 a émis un signal de détresse hier avant d'éteindre son système de repérage et de se dérouter vers le port somalien d'Aloula. Des pirates ont confirmé à Reuters attendre le navire. Quant au président de cette ville, il a indiqué au service somalien de la VOA avoir mis les forces de sécurité en état d'alerte et qu'une action ferme serait prise contre les pirates. Parti de Djibouti, le pétrolier avait mis le cap sur Mogadiscio, mais a viré brusquement après avoir passé la corne de l'Afrique. D'après John Steed, membre de l'ONG Oceans Beyond Piracy, le cargo a fait savoir qu'il était suivi par deux embarcations hier après-midi avant de disparaître. Le gouvernement sri-lankais a déclaré avoir 8 ressortissants à bord du pétrolier et qu'il battait pavillon des Comores. La force navale européenne chargée de lutter contre l'insécurité dans la région a effectué un survol de la zone pour tenter de repérer le navire. Après avoir perpétré près de 240 attaques au large des côtes somaliennes en 2011 et pris des centaines de personnes en otage. Les pirates somaliens sont moins actifs depuis. Les propriétaires de bateaux, eux, ont renforcé la sécurité et évité les côtes somaliennes.
Jacques Aristide, la crise en Libye s'aggrave. Des troupes armées s'affrontent à Tripoli alors que les troupes du général Haftar ont lancé une offensive pour reprendre le contrôle du croissant pétrolier. Claire Morin-Gibourg.
Les combats ont commencé lundi soir à Tripoli, dans les secteurs de Aïn al-Andalus et Gargaresh. Des chars ont été déployés au milieu des quartiers résidentiels. Des tirs et des explosions étaient toujours entendus mardi en début d'après-midi dans ces deux quartiers situés à 2 km à l'ouest du centre de Tripoli. Des témoins faisant état de combats de rue et de tirs de chars. L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Tripoli où les civils sont gravement menacés. Dans l'est du pays, ce sont les troupes loyales au maréchal Khalifa Haftar qui ont lancé aujourd'hui une large offensive pour reprendre deux importants sites pétroliers contrôlés par des groupes armés rivaux, notamment le port de Ras Lanouf aux mains des BDB, les brigades de défense de Benghazi depuis le 3 mars. Chaque camp affirme avoir triomphé, information contradictoire qu'il n'est pas encore possible de vérifier de sources indépendantes. Les BDB ont été formés en 2016 par des combattants, dont des islamistes, chassés de Benghazi par l'armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Haftar.
Les autorités égyptiennes ont libéré aujourd'hui 203 jeunes à la suite d'une grâce présidentielle. Ils étaient poursuivis pour affaires de rassemblement et manifestations. Le Burundi déclare une épidémie de paludisme. Quelque 1,8 million de cas et 700 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année. Cela représente une augmentation de 17% par rapport à la même période de l'année passée. Le gouvernement kényan et les représentants des médecins du secteur public ont trouvé aujourd'hui un accord pour mettre fin au conflit social. Un mouvement social inhabituel long a paralysé le système de santé publique du pays pendant 100 jours.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais, un violent blizzard s'abat sur le nord-est des États-Unis depuis ce matin. La tempête Stella a recouvert certaines régions d'une bonne couche de neige et provoqué l'annulation de quelques milliers de vols. Dans certains États, des écoles publiques ont fermé, même si elles s'annonçaient moins redoutables que prévu. Michel Joseph.
Le service météorologique national a émis une alerte dans 8 États, dont New York, la Pennsylvanie, le New Jersey et le Connecticut. En certains endroits, la couche de neige pourrait atteindre 60 cm demain matin, avec des températures très inférieures à la normale. 50 millions de personnes sont concernées par l'avis de tempête. Les gouverneurs des États de New York, du New Jersey, de Pennsylvanie et de Virginie ont décrété l'état d'urgence. Les écoles publiques de New York devaient rester fermées aujourd'hui. À Washington, les agences fédérales ont annoncé qu'elles ouvriraient 3 heures plus tard que d'habitude. Plus de 5800 vols ont été annulés, notamment à Newark International Airport, dans le New Jersey, l'aéroport new-yorkais de la Guardia, mais aussi à l'aéroport international Logan de Boston. Des milliers de tonnes de sel et de sable étaient prêtes à être répandues sur les routes pour faciliter la circulation. La chancelière allemande Angela Merkel, qui devait rencontrer le président américain Donald Trump aujourd'hui à Washington, a reporté son voyage. Le siège des Nations Unies à New York devait rester fermé aujourd'hui. Ce blizzard survient au terme d'un hiver particulièrement doux sur une bonne partie de la côte est des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Votre moment de suivre l'actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco avec Claire Morin-Gibourg.
L'Organisation internationale du cacao, implantée à Londres depuis 1973, installera le 25 avril prochain son siège à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de la fève. Dans un communiqué, l'institution précise qu'elle souhaite se rapprocher des réalités des producteurs de cacao afin de leur apporter son expertise. Le transfert effectif du siège intervient après des remous qui secouent depuis plusieurs semaines la filière en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, l'inflation a reculé pour la première fois en 15 mois avec un taux annuel de 17,7% en février. C'est ce qu'a annoncé le Bureau national des statistiques. Une bonne nouvelle alors que le Nigeria traverse une grave récession économique. Les prix des produits alimentaires, notamment le pain, la viande, les céréales et l'igname, ont continué à augmenter. La baisse étant tirée par le secteur des transports et de l'énergie. L'État du Burkina Faso va solliciter le 17 mars un montant de 35 milliards de francs CFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers l'émission de bons assimilables du Trésor. L'agence UEMOA Titres basée à Dakar précise que 25% des montants mis en adjudication sont offerts sous forme d'offres non compétitives.
Et nous enchaînons avec les sports. Ce soir, toujours Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
L'on commence avec le football. Les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions aujourd'hui Nico.
Victorieuse 2-0 à l'aller, la Juventus Turin est très bien placée pour se qualifier en quart de finale de cette Ligue des Champions au moment de recevoir tout à l'heure le FC Porto. Dans l'autre rencontre de la soirée, Leicester reçoit Séville après s'être incliné 2-1 à l'aller. Les Andalous disposent d'un léger avantage, mais le but encaissé à domicile crée un vrai suspense pour ce match.
Et la pression monte à Addis Abeba, où aura lieu jeudi l'élection du président de la CAF.
Et on rappelle qu'Issa Hayatou est candidat à un huitième mandat à la tête de la Confédération africaine de football. Le Camerounais est en poste depuis 1988. Ahmad est le seul candidat contre Hayatou. Il est le président de la Fédération malgache de football. Le gouvernement du Nigeria hier a ordonné au président de la Fédération nigériane, Amadou Pinnick, de voter pour le Camerounais et non pour le malgache comme il souhaitait le faire. Il s'agit là d'une ingérence caractérisée dans les affaires du football en contravention avec les usages de la FIFA et même de la CAF.
Tiens Nico, Michael Essien rejoint l'Indonésie. Il a déjà signé son contrat.
Libre depuis son départ de Panathinaikos en fin de saison dernière, Michael Essien, 34 ans, est resté tranquille pendant les 6 premiers mois de la saison. Mais cette semaine, l'ancien milieu de terrain de Lyon, de Chelsea et du Real Madrid a décidé de rebondir. Il a signé en Indonésie au club de Persing Bandung, où il a signé ce mardi.
Et retour de Ronaldinho, il est attendu au Pakistan pour promouvoir le football.
Oui, Ronaldinho va prochainement se rendre au Pakistan, espérant y promouvoir le football dans ce pays fou de cricket. Sa visite a été mise sur pied par le Leisure Leagues, un organisme basé en Grande-Bretagne qui organise des tournois avec des équipes comptant 5 à 7 joueurs.
Enfin, Nico, NBA, championnat de basket nord-américain.
Deux jours après sa démonstration contre Golden State, San Antonio a délogé son grand rival de la première place de la conférence Ouest grâce à sa victoire devant Atlanta 107 à 99. À l'Ouest, toujours Utah a remporté son duel contre les Clippers 114-108 et Chicago a stoppé l'hémorragie après 5 défaites consécutives en s'imposant à Charlotte 115 à 109.
Merci Nicolas. De retour avec vous, Eric Manirakidza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique pour développer les dossiers du monde aujourd'hui. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme saluent l'extradition dimanche de Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara. Il est accusé dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. La répression d'une manifestation de l'opposition guinéenne avait fait 157 morts et plus de 100 femmes violées selon les Nations Unies. François Patuel, spécialiste de la Guinée à Amnesty International, espère que la décision du Sénégal d'extrader Toumba Diakité est un pas important vers la vérité dans cette affaire.
Toumba Diakité, qui était le chef de la garde présidentielle, le chef des Pérés Rouges, au moment du massacre du 28 septembre, a été extradé le 12 mars vers la Guinée. Pour Amnesty International, c'est un grand pas pour la justice en Guinée. Maintenant, on dit également que c'est le moment pour les autorités guinéennes d'organiser un procès pour l'affaire du 28 septembre, un procès qui réponde également aux standards internationaux en matière de procès équitable.
La CPI a aussi ouvert un examen préliminaire sur les massacres du 28 septembre. Faut-il privilégier la justice guinéenne ou la justice internationale dans cette affaire?
C'est le principe de complémentarité qui s'applique dans l'affaire du 28 septembre. Donc, je pense qu'il y a cet effort déjà des autorités guinéennes d'organiser un procès. C'est une procédure qui est longue, hein. Le massacre a eu lieu le 28 septembre 2009. Il y a eu plus de 150 personnes qui ont été tuées, une centaine de femmes violées et plus de 1500 blessées. Et depuis, les victimes et leurs familles demandent la justice. Les dossiers avancent très lentement au regard de la justice guinéenne. Il y a 14 personnes qui ont été inculpées. Il y en a encore qui sont, pour vous dire, dans des positions de responsabilité aujourd'hui en Guinée. Il y a Moussa Dadis Camara, qui est également au Burkina Faso depuis le massacre du 28 septembre. Donc les choses avancent lentement. On espère que l'extradition de Toumba Diakité va accélérer le processus.
Vous pensez que Toumba Diakité pourra bénéficier d'un procès équitable en Guinée?
Les autorités guinéennes ont donné toutes les assurances que, à la fois, sa sécurité serait assurée en Guinée. Ils ont également à plusieurs reprises insisté sur le fait qu'ils allaient organiser un procès équitable et qui répond aux standards internationaux. Maintenant, ce qu'on les engage à faire, c'est d'organiser ce procès dans les plus brefs délais. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si oui ou non le procès serait équitable. Il faut tenir les autorités guinéennes face à leur engagement. Il faut qu'elles tiennent maintenant cet engagement dans les plus brefs délais pour les victimes du massacre du 28 septembre et pour leurs familles.
Toumba n'est pas le seul mis en cause. Et le cas d'Addis Camara, est-ce que vous pensez que l'ex-chef de la junte devrait répondre à la justice de son pays?
Il y a 14 personnes qui ont été inculpées dans l'affaire du 28 septembre, dont l'ancien président d'Addis Camara. Il y a encore des gens aujourd'hui dans des positions officielles en Guinée qui sont mis en cause dans le dossier du 28 septembre. Très inquiétant, hein, on s'inquiète du fait qu'il pourrait ralentir par exemple la procédure. Donc il faut aussi que ces personnes-là soient mises par exemple en congé administratif pour s'assurer qu'ils n'influencent pas de manière négative la procédure qui est engagée pour l'affaire du 28 septembre.
François Patuel d'Amnesty International répondait aux questions de Abdourahmane Dia.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
L'Afrique du Sud et le Nigeria ont convenu la création d'une plateforme de dialogue pour prévenir les tensions xénophobes. La mesure a été annoncée hier à l'issue d'une rencontre à Pretoria entre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Maite Nkwana Mashabane et son homologue nigérien Geoffrey Onyeama à Pretoria. Ce centre d'alerte permettra aux deux pays de suivre de près des problèmes et de prévenir les éventuelles violences. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud.
Depuis les attaques, le Nigeria est le seul pays qui s'est annoncé et qui a condamné les attaques et qui a demandé au gouvernement sud-africain de prendre les mesures nécessaires pour protéger les biens et les vies humaines ici. Ça, c'est très important. Et je crois que le Nigeria a aussi approché l'Union africaine pour dire qu'il souhaiterait que l'Union africaine intervienne pour protéger les biens ici, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on parle de ces attaques-là sur les migrants qui vivent ici. Donc c'est un suivi de toutes ces démarches-là.
Alors l'Afrique du Sud et le Nigeria ont annoncé la création d'une plateforme de dialogue au sujet de cette situation. Quelle est votre réaction?
On pense que c'est une bonne plateforme. On salue la création de cette plateforme. Seulement, ce qu'on est en train de dire, c'est que on sait comment est-ce que le sujet des attaques sur les migrants ici, pratiquement depuis 2008, ce sujet a été traité par le gouvernement sud-africain. On se demande est-ce que ce serait avec une franchise que le gouvernement sud-africain va travailler sur cette plateforme, parce que on sait que le gouvernement sud-africain est en train d'entretenir un flou sur la question, parce que ou bien on se rend compte que notre peuple est xénophobe et donc pour ne pas perdre ses voix lors des élections prochaines de 2019, il faut entretenir la chose, de faire croire que non, mais tu es aux côtés de la société civile qui se plaint des migrants et qui ne veulent même pas que les migrants vivent ici. En même temps, il faut protéger les intérêts bilatéraux qui existent entre les pays. On ne souhaiterait pas, parce que nous, on se dit que quand les attaques se passent, on perd des vies humaines. Et ce serait dommage qu'on fasse des jeux alors que les gens perdent leur vie.
Un rapport de l'Institut sud-africain des relations raciales note que les immigrants en Afrique du Sud réussissent à se faire une situation en dépit de tous les problèmes et que les Sud-Africains devraient plutôt apprendre de ce succès des immigrants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est une recherche qui a été, depuis plusieurs années, qui a été faite ici en Afrique du Sud. Le Houghton City Region a fait une recherche pour dire qu'on a dû remarquer que les migrants, quand ils créent des emplois, ils embauchent les Sud-Africains. Mais seulement, c'est parce que le gouvernement ne voulait pas faire attention à ça, que ça n'a pas été pris au sérieux. Ça, nous, on le savait.
Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine dans le pays arc-en-ciel.
Ne manquez pas Le Monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU sur VOA Afrique. Le Monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le Monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant, comme vous. Le Monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson sera cette semaine au Japon, en Corée du Sud et en Chine, à un moment de troubles et de vives tensions dans la région. Les précisions de Lionel Gaïma.
La Corée du Sud, une des étapes du secrétaire d'État Tillerson, traverse une zone de turbulence en rapport avec la destitution pour corruption de la présidente Park Geun-hye. Une situation compliquée davantage par le fait qu'elle intervient après le tir par la Corée du Nord de 4 missiles balistiques qui se sont abîmés en mer au nord-ouest du Japon. La Corée du Nord figure en bonne place dans le programme du chef de la diplomatie américaine, a fait savoir le porte-parole intérimaire du département d'État, Mark Toner. La poursuite des essais de la Corée du Nord et de l'augmentation de son programme d'armement sont un sujet de grande préoccupation, au point où nous devons considérer d'autres alternatives. Nous allons parler avec nos alliés et partenaires dans la région pour trouver une nouvelle approche.
Pour le moment, Washington n'est pas prêt à un dialogue direct avec le régime nord-coréen, a souligné le porte-parole intérimaire du Département d'État. Étant donné le récent comportement de la Corée du Nord, nous ne sommes pas à un point où nous envisagerions un engagement direct avec eux. Nous n'allons d'aucune manière récompenser un tel comportement. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils poursuivront le déploiement du système de défense antimissile THAAD en Corée du Sud, un projet contre lequel la Chine a vivement protesté. Pékin se trompe d'adversaire, estime Richard Bush de la Brookings Institution à Washington. Je pense que la Chine doit être furieuse contre la Corée du Nord qui a créé la nécessité de déployer le système de défense antimissile. Il faut prendre le problème à la racine, non pas s'attarder sur les manifestations externes. Lors de son séjour en Chine, le secrétaire d'État Rex Tillerson fera le suivi de l'entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que d'autres rencontres sino-américaines de haut niveau. Son objectif, des relations bilatérales constructives et le respect par la Chine des règles du jeu en matière commerciale. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Après un hiver inhabituellement clément, le nord-est des États-Unis était sous la neige et la grêle ce matin, sous l'emprise de la tempête Stella. Des écoles ont fermé, des milliers de vols annulés. Dans certains quartiers de New York, comme Brooklyn, la neige avait tourné à la pluie glacée dès la matinée, alors que les températures étaient proches de zéro. La ville tournait au ralenti et beaucoup de gens n'ont pas pu travailler. C'est le cas, par exemple, de Amara Sano, taximan, au micro de John Lyndon.
Oh, mais ça fait que le travail est terriblement empêché, on ne peut même pas se rendre au boulot. Actuellement, je vous parle, le train est suspendu. Donc, si vous, votre première commute est le train, vous ne pouvez pas vous rendre au boulot. Même si vous arrivez à vous rendre au boulot aussi, c'est vraiment difficile de circuler. Si vous ne voulez pas avoir un accident, je pense que c'est mieux de rester à la maison avec la famille.
Quel est le manque à gagner pour un taximan comme vous quand une journée de travail que vous perdez, combien d'argent est-ce que vous perdez? Vous avez une idée?
En matière de montant, on ne peut pas le dire exactement. Puis le travail de taxi, où il n'y a pas un montant exact que vous pouvez estimer en une journée. Ça peut être moins, ça peut être plus, entre 150 et 300 dollars par jour. Bon, il faut à cet intervalle. Ça dépend de comment le boulot est busy. Donc, je crois que chaque fois que vous n'arrivez pas à travailler, ça, c'est vraiment un dommage pour vous parce que même 100 dollars, ça peut couvrir des factures. Donc, chaque fois que vous restez à la maison, c'est quand même un dommage, quel que soit le montant.
Et dans la ville de New York, est-ce que les autorités ont quand même pris des dispositions pour que les routes soient nettoyées et est-ce que c'est à tous les niveaux?
Ouais, bien sûr, partout on voit les snowplows, donc ils sont en train de les nettoyer. Je pense que demain le boulot va reprendre puisque je viens d'écouter le gouverneur à la télé et il dit que la neige n'a pas été aussi terrible comme ça a été annoncé parce qu'ils avaient annoncé 18 inches, 19 inches. Mais maintenant on est actuellement à 6 inches. Donc, à Central Park, puisqu'il n'y a pas de circulation dans le parc, c'est plus de 10 inches. Mais dans les rues à Manhattan et puis dans le Bronx, c'est anywhere entre 6 et puis 8 inches. Donc, plus les gens circulent, plus la neige diminue, quoi. Parce que les gens arrivent à taper dessus et puis ça s'aplatit.
Il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année. Est-ce que cela vous surprend, vous qui êtes habitué à la ville de New York?
Je pense qu'il y a eu un peu plus de neige cette année. On ne s'attendait pas à plus de neige cette année, mais je pense qu'il y a eu plus de neige cette année. Mais ça n'a pas été aussi terrible comme certaines années où il y a eu les grands vents. Cette fois-ci, quand même, on ne s'attendait pas à ce genre de snow-là. Quand vous comparez cette année à d'autres années, ça a été moins quand même.
Amara Sano, taximan à New York. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph et Smim Loumami. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez à l'écoute 24h sur 24 sur VOA Afrique. Au revoir.